si important pour l'histoire spirituelle de notre pays et qui demeure aujourd'hui un lieu de grâce pour le diocèse de Nanterre et plus largement pour tous les séminaristes qui s'y préparent à devenir prêtres. Vous savez que c'est le vaisseau amiral de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, fondée au XVIIe siècle après le Concile de Trente, pour contribuer au renouveau de l'Église par la formation des prêtres. Alors moi, je ne suis pas membre de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, mais j'ai grandi dans la paroisse Saint-Sulpice de Paris, et comme me disait un des nombreux sulpiciens qui prenaient soin de la paroisse, j'étais au moins sulpicien de naissance. Et donc je me sens tout à fait bien ici. Le séminaire Saint-Sulpice, d'ici les Moulineaux, après son transfert de la place Saint-Sulpice dans la maison de campagne, modeste maison de campagne qui à l'époque était dans une périphérie vraiment bucolique de Paris, c'était avant les travaux pharaoniques de M. Santini, eh bien, le séminaire de Saint-Sulpice a une aura extraordinaire dans l'Église de France. Et dans le journal La Cruelle Campagne, par exemple, de Bernanos, le curé de Torcy, qui est le mentor du principal personnage, le curé d'Ambricourt, lui parle d'ici les Moulineaux, qui était le Saint-Cyr de l'Église de France. Vraiment, le lieu par excellence où on formait l'élite du clergé. Alors, messieurs les petits bonhommes rouges, comme disait le supérieur, prenez-en de la graine. Alors, pour parler du prêtre aujourd'hui, je voudrais vous proposer trois séries de réflexions sur le prêtre appelé à être un homme du Christ, Seigneur et Sauveur, à être un homme de la fraternité baptismale et missionnaire, et à être un homme de l'Eucharistie dans sa densité et son ampleur. Et je terminerai en évoquant la joie d'être prêtre. Alors d'abord, le prêtre appelé à être un homme du Christ. C'est l'essentiel. Dans une période aussi secouée que la nôtre, dans l'Église, mais dans le monde, dans une période où tout semble toujours remis en cause, où il n'y a plus de principe d'autorité qui vaille, où le pluralisme des courants de pensée, mais aussi la proximité entre populations d'enracinement spirituel, d'origine culturelle et également d'appartenance intellectuelle extrêmement variée est omniprésent, ce qui permet d'être durablement chrétien, bien sûr, et prêtre en particulier, c'est d'appartenir vraiment au Christ, d'avoir laissé le Christ ravir son cœur au sens le plus profond du terme. Comme évêque depuis un peu plus de 8 mois, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, et ça m'arrivera encore après-demain, de présider les obsèques de prêtres. Le prêtre dont je célèbre les obsèques lundi, le père René Mars, sans doute un ancien de cette maison, a vécu 70 ans de sacerdoce. Qu'est-ce qui a permis cette persévérance, non seulement minimale dans la fidélité aux engagements du sacerdoce, ce qui n'est pas si mal, mais cette persévérance dans le service de l'Évangile, dans l'annonce enthousiaste de la parole de Dieu, dans l'accompagnement durablement enthousiaste des familles qui présentent, en étant plus ou moins croyants, un enfant au baptême, etc. Si ce n'est l'attachement personnel profond au Christ. Je disais, en introduisant mes 3 points, le Christ Seigneur et Sauveur. D'abord, le Christ pour lui-même, dans son enseignement, dans la force et la beauté de sa parole, cette parole qui résonne et qui touche le cœur avec une délicatesse infinie. Le Christ dans les gestes qu'il a posés, son attention à l'égard des plus pauvres, sa délicatesse, sa force, sa liberté. L'Écriture nous dit qu'il est passé au milieu des hommes en faisant le bien. Et c'est cela qui permet d'être prêtre aujourd'hui comme hier, et peut-être aujourd'hui encore plus qu'hier. L'attachement à l'Église comme structure belle et parfois défaillante aussi ne suffirait pas à maintenir durablement dans la joie d'être prêtre. C'est l'attachement au Christ dans toutes les dimensions de son être. L'école française de spiritualité, qui habite la tradition d'enseignement des Sulpiciens, dont elle est une des premières et les plus belles expressions, est très attentif à la personne humaine du Christ, les sentiments humains qui habitaient le cœur du Christ, son regard sur les personnes, son amitié pour ses disciples, sa capacité d'être en relation de manière à la fois enthousiasmante et libératrice. C'est tout cela que les prêtres n'ont jamais fini de découvrir et qui est le point de leur enracinement essentiel. Il n'y a pas de sacerdoce possible, hier comme aujourd'hui, et comme je le disais il y a un instant, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, sans un attachement personnel très fort au Christ, à sa parole, à l'ampleur de son mystère. Mais aussi, je l'ai dit, le Christ, Seigneur, en sa personne, est Sauveur. Ce point me semble extrêmement important aujourd'hui. Le Christ ne vient pas simplement offrir une option spirituelle parmi d'autres, qui pourrait être bienfaisante pour les uns et moins touchante pour les autres. Le Christ n'est pas venu ouvrir un chemin de prière qui, en réalité, ne serait pleinement acceptable que dans la mesure où il se revendiquerait comme très optionnel. Le Christ est celui qui, par sa mort et sa résurrection, nous délivre du péché et de la mort. Et ne pas prendre au sérieux cette dimension rédemptrice du mystère du Christ, c'est au fond s'interdire d'être totalement consacré à son amour. Il me semble qu'aujourd'hui nous avons à nous réapproprier cette dimension du Christ Sauveur. Et avec le diocèse, j'ai commencé à en parler avec les uns ou les autres, nous ferons sûrement un travail à la fois théologique, pastoral, ample, en associant beaucoup des nombreuses forces vives du diocèse à cette réflexion sur la manière de comprendre et d'annoncer le salut aujourd'hui. Si nous ne croyons pas que nous avons un besoin vital de la mort et de la résurrection du Christ pour que notre vie ait un sens, pour que notre existence ait une destinée, pour que notre aventure terrestre ait une plénitude céleste, alors nous n'avons rien à dire et notre mission sacerdotale perd sa signification. Il me semble qu'une difficulté aujourd'hui de l'Église à se déployer autant qu'elle le pourrait, qu'elle le devrait, une faiblesse du nombre des séminaristes, même si la qualité de ceux qui sont déjà donnés au diocèse est remarquable, vient de ce déficit de relations fortes au Christ rédempteur, au Christ sauveur. En un sens, pour l'avenir de l'humanité, c'est Jésus-Christ ou rien. Parce que si Jésus n'a pas donné sa vie pour nous délivrer de la mort, pour nous délivrer de la fatalité du péché, de la dureté, du refus de pardonner, alors notre vie perd son sens. Et donc il y a une urgence à nous réapproprier cette dimension du Christ sauveur. Le prêtre d'aujourd'hui et de demain est donc d'abord un homme du Christ. Du Christ Seigneur, qui a ravi son cœur une fois pour toutes et toujours davantage par sa parole et par sa vie, le Christ Sauveur, dont nous percevons qu'il est la condition de possibilité d'une vie qui ait du sens, d'une vie qui soit durablement heureuse. La deuxième dimension de la vie sacerdotale que je voudrais mettre en lumière avec vous cet après-midi, c'est le prêtre comme homme de la fraternité, baptismal et missionnaire. Parfois, on a opposé dans l'histoire de la formation des prêtres, de la spiritualité sacerdotale, une dimension plus tournée vers l'intérieur, le prêtre pasteur du troupeau, et une dimension plus missionnaire, Saint-Pierre d'un côté, Saint-Paul de l'autre. Et vous le savez bien, ce genre d'opposition sont toujours fatales. La grâce d'être pleinement disciple de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, c'est de ne jamais disjoindre ce qui doit être uni. La dimension de communion de la mission de l'évêque et de ses collaborateurs, les prêtres, et la dimension de mission vont de pair. Mais je voudrais la regarder sous l'angle de la fraternité. Le Christ, Fils de Dieu, fait homme, a souhaité que, par le baptême, nous puissions devenir, par lui, avec lui, en lui, dans l'esprit, des enfants du Père. Cette fraternité, qui est un mot clé de notre devise républicaine et qui est au fronton de toutes les mairies, la mairie d'Issy les Moulineaux comme les autres, cette fraternité, elle s'enracine dans cette fraternité extraordinaire qu'ont découverte les premiers chrétiens par l'expérience du baptême. Pourquoi sommes-nous frères, au sens fort du terme? Peut-être y a-t-il un petit réglage à faire pour que le bourdonnement ne soit pas pénible pour mes auditeurs.
Ça vient dehors, monseigneur.
Ah, ça vient dehors.
Bon. Alors, je continue. Quelle expérience extraordinaire de devenir frère et sœur par le baptême. Vous savez que dans l'Antiquité, quand une maîtresse d'esclave et une esclave recevaient l'une et l'autre le baptême, elles étaient émerveillées de se découvrir sœurs dans le Christ. Et il est très important de ne pas considérer cette fraternité comme une sorte de métaphore lointaine. Nous serions frères et sœurs par le baptême, un peu comme on est frères et sœurs dans une même famille. Non, il n'y a pas de fraternité plus forte que celle du baptême. Et la fraternité familiale, aussi magnifique soit-elle, n'est qu'une pédagogie, une révélation de la fraternité baptismale pour laquelle nous sommes faits. Et cette fraternité baptismale, elle est le don que nous fait le Christ révélateur du Père. C'est assez extraordinaire cela. Jésus a révélé le Père, c'est sa mission essentielle, sur le mode de la fraternité avec ses disciples. Et les ministres ordonnés ont cette mission de révéler le Père sous le mode de la fraternité particulière, intérieure à la fraternité baptismale. Une des missions essentielles des ministres ordonnés, c'est de susciter, de nourrir, de révéler la fraternité baptismale. Et cela est très important parce que les prêtres ne renoncent pas à la fraternité baptismale en devenant ministres ordonnés. Leur ordination, loin de supprimer la fraternité baptismale, la renforce en quelque sorte. De la même manière que l'ordination épiscopale ne supprime pas la fraternité sacerdotale, mais mystérieusement la renforce. Cela est très important, en particulier dans le contexte d'aujourd'hui, où on est attentif, à juste titre, à ne pas laisser l'Église s'enfermer dans une toute sorte de cléricalisme, où les prêtres décideraient de tout, ils le font finalement assez peu souvent d'ailleurs aujourd'hui, mais où il y aurait le soupçon aussi qu'il y aurait des citoyens mineurs dans l'Église qui seraient les simples baptisés, et les seuls citoyens majeurs seraient des hommes ordonnés. En réalité, il y a dans l'Église d'abord la fraternité de tous les baptisés hommes et femmes. Et il n'y a pas de plus grande dignité que d'être enfant de Dieu dans le Christ. C'est d'ailleurs une homélie qu'on lit dans la Bible de Noël du pape Saint Léon le Grand, « Chrétien, prends conscience de ta dignité ». La mission des ministres ordonnés est de faire vivre cette fraternité baptismale, de faire prendre conscience à tous les baptisés de leur dignité, de leur vocation missionnaire, de leur vocation à être pleinement actifs dans l'Église. Et c'est l'importance aussi de ce qui a beaucoup progressé dans la lumière du Concile Vatican II, notamment dans ce diocèse de Nanterre, de fraternité bien concrète des baptisés et des ministres ordonnés pour le service de l'Évangile. Je me vois compter que lorsque ma nomination a été rendue publique comme évêque de Nanterre il y a un tout petit peu moins d'un an, une journaliste de La Croix m'a téléphoné pour faire son petit portrait en me disant « Est-ce que ça ne vous fait pas peur d'arriver dans un diocèse où les laïcs ont beaucoup de responsabilités, les femmes en particulier ?» Et je lui ai répondu, mais vraiment sans réfléchir un instant, au contraire, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. Et je dois rendre hommage à la loyauté de cette journaliste qui a marqué « il est enthousiaste » entre guillemets à l'idée de rejoindre un diocèse où les laïcs et les femmes en particulier ont beaucoup de responsabilités. Et il me semble d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui dans le diocèse de Nanterre à un niveau de maturité dans ce travail partagé qui fait que plus personne, même s'il peut y avoir toujours, c'est la vie humaine, des lieux où la collaboration se fait moins facilement que d'autres, ou des moments où la collaboration se fait moins facilement que d'autres, globalement, personne ne voit les vocations en concurrence les unes par rapport aux autres. Mais au contraire, la fraternité bienfaisante, les ministres qui éveillent les baptisés à leur grâce et leur responsabilité baptismale, la présence aussi des consacrés, j'en salue quelques-unes, qui, par la radicalité de leur engagement baptismal, révèlent à tous la force du baptême, et cette fraternité baptismale qui est le sujet principal de l'évangélisation. Quand je dis fraternité baptismale, vous voyez, je distingue délibérément, avant de parler de la fraternité missionnaire, cette relation très particulière qui existe entre tous les baptisés. Parce que notre fraternité n'est pas allusive, elle est essentielle. Alors, en disant tous les baptisés, en particulier en présence de Christine Roberge, qui après avoir eu la responsabilité du dialogue entre chrétiens de l'écuménisme pour le diocèse de Nanterre, est actuellement engagée au service du Conseil des Églises chrétiennes de France, cette fraternité, elle nous unit aussi entre tous les baptisés, quelles que soient les confessions. Et donc, il est très important que cette réalité soit déjà intégrée. Et le très beau travail mené par les voix de l'unité, les séminaristes les plus musiciens d'ici les Moulineaux et les séminaristes du séminaire Saint-Geneviève d'Épinay-sous-Sénart de l'église orthodoxe russe, et de ce point de vue-là, vraiment plus que symbolique. Cette fraternité entre baptisés, c'est quelque chose de très particulier, dont nous n'avons jamais fini de nous émerveiller. Chaque fois que nous disons le Notre Père en particulier, cette fraternité est convoquée et rendue présente, avec en plus toute la multiplicité des cercles de concentriques de fraternité qui nous caractérisent, fraternité conjugale, fraternité familiale, fraternité paroissiale, fraternité d'une communauté de séminaire, fraternité diocésaine. Cette fraternité, c'est à la fois le lieu et la mission des prêtres, et hier comme aujourd'hui bien sûr, mais en particulier aujourd'hui dans cette période de l'Église que nous vivons 60 ans après Vatican II, ce qui est encore assez peu à l'aune de l'histoire de l'Église. Mais, et c'est un des paradoxes les plus extraordinaires de la foi chrétienne, c'est que l'intensité de nos relations entre baptisés comme telles ne nous coupe pas de tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore part à l'Évangile, qui n'ont pas encore eu le bonheur de recevoir le baptême. Il pourrait y avoir une fraternité close, qui deviendrait éventuellement sectaire. Mais la fraternité baptismale, quand elle est fondée dans le Christ, n'enferme pas un groupe, au contraire, elle l'ouvre à tous les autres. Pourquoi ? Parce que c'est une fraternité dans le Christ, sauveur de tous les hommes. Je reviens à la première partie. Que c'est une fraternité qui vient du Christ qui est la porte réelle du cœur, qui rend capable de rencontrer tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Et donc nous n'avons pas à opposer le service de la communion à celui de la mission, c'est l'intensité même de la fraternité baptismale et de la communion de la communauté chrétienne qui la rend ouverte et missionnaire. Et c'est une des missions spécifiques des ministres ordonnés de veiller à ce que la fraternité locale ne soit jamais enfermée en elle-même, mais soit toujours bien ouverte vers tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ dans un lieu d'église, vers bien sûr aussi le reste de la communauté diocésaine et chrétienne. C'est une des missions les plus belles des prêtres d'aujourd'hui et de demain que d'éveiller ceux qui ont de la joie à se retrouver pour écouter la parole de Dieu, pour prier, à leur responsabilité de servir les pauvres et d'aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Et aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, ce n'est pas chercher à faire des adeptes ou à faire adhérer de manière purement théorique à une série de vérités spirituelles, mais c'est intégrer dans le corps du Christ, qui est un autre nom de la fraternité baptismale. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accompagner un nombre significatif d'adultes vers le baptême et vers la confirmation. C'est souvent, pour les confirmés adultes, aussi un moment de redémarrage chrétien fondamental. J'ai eu le bonheur de célébrer 110 confirmations d'adultes avec le vicaire général, d'autres prêtres du diocèse, il y a une semaine, et dans une semaine, une nouvelle promotion de 100 confirmants. Nous avons eu des magnifiques baptêmes d'adultes aussi à Pâques. Mais vous savez qu'une des questions essentielles, c'est d'accompagner la persévérance des catéchumènes dans l'Église. Et une des conditions de cette persévérance, c'est qu'ils puissent éprouver la vérité de la fraternité baptismale, qui est bien réelle, dont on peut souvent être émerveillé, mais qui a toujours à être nourri. Et pour ma part, je dois dire que c'est une des très grandes joies pour ma vie de prêtre de découvrir, d'éprouver et d'éveiller à cette fraternité baptismale. Et comme je l'ai dit, l'ordination ne la restreint pas, au contraire, elle l'approfondit. Donc, les prêtres d'aujourd'hui et de demain, hommes du Christ, Seigneur et Sauveur, hommes de la fraternité baptismale et missionnaire. Et puis, ce sera mon troisième et dernier point, prêtres appelés à être des hommes de l'Eucharistie dans sa densité et dans son ampleur. Là aussi, parfois, on a pu opposer la pastorale sacramentelle et l'engagement missionnaire. Bien sûr, il faut les distinguer. Un prêtre n'est pas fait seulement pour célébrer la messe, même si le grand public se demande ce qu'il fait en dehors de l'heure dominicale qu'il consacrerait à cet exercice. Et cela dit, tout est contenu dans l'Eucharistie. Et je pense essentiel, notamment pour les vocations, que l'Eucharistie ne soit jamais vécue, célébrée, de manière banale. L'Eucharistie est le lieu où se cristallise tout le mystère de la foi, tout le mystère du Christ Seigneur, qui nous parle, qui nous rejoint, qui suscite notre adhésion à la foi et notre liberté pour intercéder, pour le prier. Le Christ Sauveur, qui vient par le don de sa vie rendu présent, nous libérer toujours davantage du péché et de la mort. L'Eucharistie célébrée rend présente la fraternité baptismale, visible, tangible, sensible. Le corps du Christ, c'est le pain consacré et c'est l'assemblée réunie qui est et qui devient toujours davantage le corps du Christ à la mesure de l'entrée consciente de tous les membres du corps dans cette réalité magnifique qu'est l'Église mystère, l'Église communion. Et puis, l'Eucharistie est aussi le lieu missionnaire par excellence, puisque l'Assemblée est convoquée pour être envoyée, nourrie, pour être renouvelée dans sa capacité à témoigner. Si nous vivons l'Eucharistie de manière formelle, banale ou pauvre, alors notre vie chrétienne s'affadit de manière absolument désolante. Et je crois que aujourd'hui, c'est encore un vrai travail à accomplir de la part de toute la communauté chrétienne que nous progressions dans la perception de la densité de l'acte eucharistique. De tous les sacrements, bien sûr, mais vous savez que l'Eucharistie est celui qui, en quelque sorte, résume, contient tous les autres. Le Saint-Sacrement, le sacrement des sacrements, le sacrement par antonomase, disait Jean-Paul II dans sa dernière encyclique, donnant l'occasion pour beaucoup de ses lecteurs de découvrir cette figure de style qu'est l'antonomase. Alors, je vous encourage, comme baptisé, à progresser toujours davantage dans cette perception de la densité eucharistique. C'est, me semble-t-il, un des points essentiels pour l'avenir des vocations sacerdotales. Si l'Eucharistie est banale, alors on n'a pas à consacrer sa vie à son service. Si l'Eucharistie est le lieu où se cristallise le mystère du salut, alors comment résister à l'appel de la servir tout au long de son existence? Et encore une fois, il ne s'agit pas d'inviter à une sorte de formalisme liturgique, mais à un approfondissement permanent de ce qui se joue dans le mystère de l'Eucharistie. J'ai dit l'Eucharistie dans sa densité et dans son extension. Parce que ce qui était extraordinaire, quand on y est vraiment attentif, c'est à quel point toute l'histoire du monde, toutes les réalités de la vie sont contenues dans l'Eucharistie. Peut-être que certains d'entre vous ont lu « La messe sur le monde » de Teilhard de Chardin, qui est déjà préparé par un premier texte qui s'appelle « Le prêtre », où dans les tranchées de la guerre de 14, n'ayant ni pain ni vin, il offre spirituellement, en suivant le déroulement du canon romain dont il cite le titre des parties en latin, dont il y voit, il sait tout le monde entier qui est pris dans son offrande eucharistique. Tout le mystère du mariage, de l'amour conjugal, est présent dans l'Eucharistie, où sont anticipées les noces du Christ et de l'humanité. Quand le prêtre dit au nom du Christ époux, ceci est mon corps, ce n'est pas rien pour comprendre le mystère du mariage comme sacrement. La paix du monde est anticipée en chaque Eucharistie, où des hommes, des femmes différents se retrouvent, frères et sœurs dans le Christ, et peuvent partager la paix qu'ils vont ultimement recevoir par la communion eucharistique elle-même. Le rapport à l'environnement qui prend dans notre réflexion aujourd'hui, notamment théologique et missionnaire, une place nouvelle, l'encyclique Laudato si du pape François nous y encourage en particulier, est présent dans l'eucharistique, où il y a du pain, du vin, de l'eau, et toute la question du rapport à la création qui se pose de manière nouvelle. La dimension, disons, du destin de toute l'humanité est présente en chaque Eucharistie. Quand le prêtre proclame « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau », c'est l'appel de toute l'humanité à communier pour l'éternité à la vie du Christ ressuscité qui est proclamée. Messieurs les séminaristes, quand vous serez prêtres, n'ayez pas, avec une bonne intention, un peu coupable quand même, le réflexe de dire « Heureux, vous, les invités au repas du Seigneur ». Certes, tous ceux qui sont venus sont les invités, mais ce que la liturgie nous donne de proclamer, c'est d'ailleurs l'innovation assez mystérieuse dont personne ne sait vraiment l'origine de la réforme liturgique, c'est la béatitude de l'Apocalypse, « Heureux, les invités au festin de noces de l'agneau », c'est-à-dire toute l'humanité, dont la communauté rassemblée n'est qu'une expression anticipée, une expression pleine d'espérance. D'ailleurs, nous allons bientôt avoir une nouvelle traduction du missel romain. C'est une aventure épique qui prend beaucoup de temps, mais j'espère et je crois bien que nous retrouverons l'ordre des proclamations juste avant la communion. Saint Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu, des premières phases du Nouveau Testament, et Saint Jean-Évangéliste, heureux les invités au festin des noces de l'agneau, une des dernières phrases du Nouveau Testament. Donc, le Christ en son humanité, le Christ qui appelle l'humanité tout entière à la vie éternelle dans la résurrection, et entre les deux. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir l'expérience actuelle de l'habitation en nous de la présence divine. La phrase pleine d'humilité d'un païen, d'un de ceux qui ont rejoint le peuple de l'Alliance par l'appel universel du Christ. Le prêtre donc, homme du Christ, Seigneur et Sauveur, homme de la fraternité baptismale et missionnaire, homme de l'Eucharistie dans sa densité et dans son ampleur. Je termine en disant quelques mots sur la joie d'être prêtre. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare que, même dans de bonnes familles chrétiennes, on redoute qu'un enfant soit appelé à devenir prêtre, perçoit un tel appel et décide d'y répondre. Il y a une sorte de sentiment que être prêtre, ce serait sans doute beau, mais un peu dur quand même, voire un peu triste. Il y a des années, feuilletant un volume de correspondances bourgeoises, vous voyez, des modèles de lettres pour toutes les circonstances de la vie dans la bonne société d'autrefois, il y avait des modèles de lettres, comment annoncer à sa cousine que son fils rentre au séminaire. Oui, c'était un livre un peu typé, parce qu'il y avait également des modèles de lettres pour écrire à son personnel qu'on rentre du château à la fin de l'été. Mais donc, vous voyez, ça s'inscrivait un peu quand même dans une sorte d'image d'Épinal, mais de la France bourgeoise et aristocratique d'autrefois. Les modèles de lettres, c'était « Ma chère cousine, vous ne devinerez jamais le malheur qui atteint notre famille. Notre fils, que nous pensions appeler aux plus glorieuses destinées, vient de nous annoncer que le Seigneur l'appelait à devenir prêtre et qu'il rentrerait au séminaire Saint-Sulpice ou au noviciat des Jésuites à la rentrée prochaine. Bien sûr, nous sommes heureux de garder pour nous seuls ce cher cœur. » Là, il se fait peut-être des illusions, parce que le cœur d'un prêtre est très sollicité par tous les fidèles, mais vous devinez quand même notre chagrin. Priez pour nous, pour que nous puissions dépasser cette épreuve. Alors, il y a parmi vous des parents de prêtres qui ont peut-être d'ailleurs eu des interrogations quand leur fils, et puis aussi des parents de consacrés, leur fille a annoncé une vocation. Et elles sont très légitimes, notamment aujourd'hui. Et du coup, moi comme évêque, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Je l'ai dit le jour de mon ordination épiscopale, mais il ne faut pas que ce soit simplement une parole en l'air, de faire du bonheur sacerdotal des prêtres du diocèse une de mes priorités. Ça passe par la qualité des relations entre les prêtres et l'évêque, par l'accompagnement des prêtres tout au long de leur vie sacerdotale, par la qualité des relations fraternelles possibles dans l'exercice du ministère, passe aussi par le fait de permettre à chaque prêtre de progresser toujours et d'avancer dans sa formation intérieure. Mais quoi qu'il en soit d'efforts supplémentaires à faire, je voudrais vraiment redire à quel point la vie sacerdotale est source de joie pour ceux qui y sont appelés. Alors, il faut y être appelé, c'est pour ça que il est très important qu'il y ait un temps de discernement et un temps de discernement qui soit approfondi, ce que nous vivons avec l'année propédeutique et puis tout au long de la formation au séminaire. Et il en est de même dans la vie consacrée. Je vois ici Pierre de Bénazé de la communauté apostolique Saint-François-Xavier qui dirige un lieu de formation spirituelle un peu initiale et de discernement pour des jeunes femmes qui s'interrogent notamment sur leur vocation. Mais une fois que ce discernement est fait, la vie sacerdotale ouvre des bonheurs incroyables. Et moi, de temps en temps, je me dis, en voyant bien que tous ceux qui, par le Seigneur, sont appelés à devenir prêtres ne le deviennent pas aujourd'hui, parce que sans doute il y a un peu de surdité dans une vie trop divertie par le bruit, par le mouvement, par la pression scolaire, par le fait que, ben voilà, on passe d'une classe dans une autre, si possible ensuite en prépa, si c'est pas en prépa, dans la case, on coche la case suivante sur Parcoursup, et puis on est tellement content d'avoir enfin obtenu quelque chose malgré les turpitudes informatiques de Parcoursup, qu'on se précipite dans une école, et puis on fait un stage, et puis on cherche un travail, et puis après, la vie est engagée sans qu'on se soit jamais posé la question « Mais que suis-je appelé à faire de ma vie ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et du coup, je me dis « Mais comme c'est triste que certains qui étaient appelés à devenir prêtres soient passés à côté de cet appel. » Parce que c'est la joie inouïe d'être justement configuré au Christ prêtre, serviteur de la fraternité qui vient susciter entre les baptisés et proposés à tous les hommes, serviteur du mystère de l'Eucharistie. Je ne suis pas en train de dire que le prêtre est plus heureux que ceux qui ont une autre vocation. Mais si c'est sa vocation, un homme appelé à devenir prêtre passe à côté du plus grand bonheur s'il ne peut pas entendre, reconnaître et répondre à cette vocation. Alors, cette journée porte ouverte, elle est bien sûr l'occasion pour vous tous de découvrir ou de redécouvrir ce lieu magnifique, ce parc somptueux, cette chapelle grandiose, nous dirons tout à l'heure pour les vêtres, qui a bien besoin d'être restaurée. Je sais que le jour venu, nous compterons sur le maire pour nous aider, mais c'est un grand chantier pour lequel il y a beaucoup de travail. Mais ce lieu, si vous le visitez, c'est aussi pour que vous soyez des serviteurs de l'appel du Seigneur. Alors, puissiez-vous tous aider les jeunes d'aujourd'hui à ne pas passer à côté du bonheur pour lequel ils sont faits.